Je vais commencer l'enseignement de ce soir avec un petit texte. C'est vraiment un abrégé d'un livre que moi j'ai beaucoup utilisé. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de livres sur le Dharma en français ou en anglais. Et donc, c'est un livre qui m'a accompagnée dans mes premières années. C'est le livre qui s'intitule Le cœur de la méditation bouddhique de Nyanaponika Thera, qui était un moine allemand qui a et vécu au Sri Lanka et qui a vraiment, je pense, c'est un des premiers à pouvoir dire qu'il a amené ses enseignements qui étaient en langue pali et c'est un érudit. Et donc, vous pouvez le trouver en français. Je crois que c'est les éditions Les Deux Océans, il me semble. Peut-être que je me trompe, mais je crois pas. Et il dit ceci. Il dit, l'esprit est le point de départ. L'esprit est le point focal. Et l'esprit est aussi, à un moment donné, éprouvé en tant qu'esprit libéré. Donc, vous voyez qu'il y a un cheminement et il va nous décrire ce cheminement dans le sens de nous dire que dans le message du Bouddha, il y a naturellement ici trois choses, et c'est exactement ceci qu'on met à l'œuvre, si vous voulez. Un aspect, c'est connaître l'esprit. Donc, voilà, connaître l'esprit, c'est quelque chose qu'on cultive, hein. Et il ajoute qu'il est si proche de nous et pourtant si mal connu. Je crois que là, on va être en accord avec ce constat. Connaître l'esprit. Ensuite, former l'esprit. Former l'esprit, et là, il dit qu'il est si lourd et obstiné, et pourtant peut-être assoupli. Donc, quelque part, on peut le former, le modeler, l'assouplir. Et le troisième aspect, la troisième chose, il dit libérer l'esprit. Et là, sa citation est « qui est partout enchaîné et qui pourtant peut d'ores et déjà obtenir sa libération. » Donc l'enchaînement est une condition, mais que cette condition peut naturellement être différente. Donc la disposition. Donc on va vraiment ici pouvoir explorer ces trois dimensions. Connaître l'esprit, le former, l'assouplir. Nourrir les qualités qui vont nous aider à l'assouplir, et puis le libérer, dans le sens de discernement, vision pénétrante, de voir les phénomènes, enfin voilà, tout ce qu'on a à disposition, se rendre compte du processus. Et ici, le former l'esprit, c'est quelque part un des aspects qu'on cultive lorsqu'on va naturellement le calmer, comme on a pu l'explorer au début de la retraite, dans le sens du calme de l'esprit, la tranquillité, s'il est agité, c'est une manière de dire on forme cet esprit, c'est-à-dire qu'on va le, quelque part, voilà, l'apaiser, le dompter, vous pouvez utiliser le terme qui vous convient. De la même manière que lorsqu'on cultive metta, ou la compassion, karuna, ou l'équanimité, nous allons aussi former l'esprit dans le sens de nourrir et d'alimenter les qualités, c'est-à-dire tous les états mentaux qui sont bénéfiques. Donc on perçoit bien là qu'il y a tout un processus de découverte et qu'il ne s'agit pas de passer de l'un à l'autre. Ils se nourrissent vraiment de façon complémentaire. Donc ce sont quelque part les fondations, établir ces fondations sur lesquelles l'esprit est disposé, se rassembler, s'apaiser. Et dans ces cas-là, on peut même dire, et il y a une citation du Bouddha dans le Majjhima Nikaya numéro 7 qui parle de ça, on peut même dire que on peut y trouver du plaisir et de la joie dans le cheminement lui-même. Donc ce n'est pas une finalité, mais c'est quelque part dans cette découverte de s'approcher de son esprit, de le côtoyer, de le fréquenter et ensuite de le modeler. Il y a toute une dimension, si vous voulez, une évolution, un processus de découverte qui fait que il y a naturellement de la joie qui peut émerger. Et donc, dans le Majjhima Nikaya, le sutra numéro 7, le Bouddha dit ceci: lorsque la joie naît en lui ou en elle, étant joyeux en esprit, son corps devient tranquille. Vous rendez compte? Le corps devient tranquille parce que l'esprit a été joyeux, c'est-à-dire qu'il est content de méditer. J'espère que c'est votre cas. Il est content d'être dans cette situation. Donc, lorsque la joie naît en lui ou en elle, étant joyeux en esprit, son corps devient tranquille. Son corps étant tranquille, il ressent du bonheur, de l'aise, on peut dire du contentement. Et l'esprit de qui est heureux devient concentré et attentif. Donc, on a vraiment toutes ces qualités-là qui se rejoignent et qui se cultivent. La joie est absolument indispensable. Donc, par moments, elle n'est pas là, on est bien d'accord. Mais il y a cette disposition d'esprit qui dit que, ben voilà, il y a à trouver un certain contentement, une appréciation à pratiquer. C'est extraordinaire de pouvoir se rendre compte que cette situation, elle est vraiment tellement exceptionnelle. Maintenant, qui sait quand on l'aura encore une autre fois, un mois? Moi, je peux vous le dire, vu les conditions, voilà, et l'âge qu'on a aussi, hein. Donc, c'est incroyable. On se dit, ah oui, non, mais la prochaine retraite et tout. Qui sait la prochaine retraite? Qui sait? C'est maintenant que ça se passe. Donc, c'est extraordinaire de pouvoir prendre en compte ceci, se rappeler, surtout s'il y a des fois où il y a voilà, un petit peu de dispersion. Donc, cette joie qui naît en lui et en elle, étant joyeux en esprit, son corps devient tranquille. Son corps étant tranquille, il ressent de l'aise, du contentement. L'esprit de qui est heureux devient concentré et attentif. Donc là, il y a tout un cheminement. Le Bouddha dit aussi, nous avons un choix. Nous pouvons cultiver la souffrance ou nous pouvons cultiver le bonheur. Vous vous rendez compte que quand on commence à être conscient, on se rend compte de cette possibilité de pouvoir aller dans le sens souhaité et de s'accompagner, de vraiment de s'aider dans ce sens, c'est incroyable. Ce qui implique là, moi j'ai été des années, mais victime de mes conditions. De mon esprit, là, agité, intranquille. Ah, je nourrissais ça, mais d'une façon incroyable, jusqu'à ce que... Heureusement, j'ai rencontré le Dharma vraiment très jeune. Mais c'est évident que c'est la souffrance qui m'a fait chercher. Et que c'est dans le Dharma, dans cette situation même, de pouvoir déjà lire un livre qui disait « Waouh, c'est incroyable !» Déjà, c'est universel, la souffrance, c'est pas juste moi parce que... Je suis dans cette petite personne avec cette famille-là, qui était une famille très compliquée. Et mon individu, quand j'ai lu ça, mais ça a été vraiment une découverte extraordinaire. Donc le Bouddha nous dit, nous avons un choix. Nous pouvons cultiver la souffrance ou nous pouvons cultiver l'aise, le contentement. Alors, ça implique que ceci nous demande une certaine conscience. Et de percevoir qu'on est acteur ou actrice de sa vie à un moment donné. Et donc la conscience, la qualité de cette attention va aussi inclure ce qu'on nomme l'intention, chetana. Donc cette intention, elle est totalement reliée à l'attention. Et cette intention d'aller dans le sens souhaité, de pouvoir aller dans le sens de la libération, de vraiment cheminer. Alors, c'est vrai qu'il y a des enseignants qui vont dire, ben, soyez simplement avec ce qui est, laissez passer, voyez les choses comme elles sont. Il y a effectivement de l'aversion, ce n'est que de l'aversion. Il y a de la colère, ce n'est que de la colère, vous percevez ça, voilà. Moi, ça me ne suffit pas. je n'ai pas du tout réussi, en tout cas au début. Donc, j'ai effectivement puisé dans tous les enseignements pour voir qu'à un moment donné, on m'a dit « Non, mais pratique métta, pratique la patience, pratique le... » Donc, dans le sens de cultiver, de développer et de vraiment avoir une intention de cheminer dans le sens de, d'aller vers l'apaisement, vers le contentement, vers la joie. Donc voilà, être avec ce qui est, c'est évident que c'est tout à fait aidant, c'est bien, mais il y a des moments où on se noie avec ce qui est. Et on se noie dans ce qui est. Du coup, c'est très très douloureux à ce moment-là et on se sent, enfin en tout cas pour moi, je peux parler que moi, enfermé. Et quand on se sent enfermé, ben, c'est difficile d'en sortir. Hein. Je veux dire, voilà. Par chance, on a des, des références. On a des amis de bien, qui sont les enseignants, on les appelle comme ceci, les amis de bien, auxquels on peut se référer, avec lesquels on partage un peu de compréhension. Il y a aussi les trois refuges, Bouddha, Dharma, Sangha. Et donc il y a beaucoup, beaucoup de soutiens qui peuvent nous aider et nous soutenir dans ces moments. Mais, donc l'intention va naturellement être une part importante pour cultiver l'attention dans le sens souhaité. Donc on peut avoir des intentions nobles, hein, ici ou ailleurs, hein, dans notre vie, et puis les nourrir, et c'est évident que on peut les retrouver, pratiquer ou être généreux, patient, bienveillant, enfin toutes ces qualités qu'on connaît bien. Et parfois se sentir complètement inadéquat et surtout frustré lorsque nos intentions, aussi nobles soient-elles, hein, sont soit oubliées, soit sapées. Tout ce travail aussi de sape qui fait que c'est tellement extraordinaire de voir combien on a envie et en même temps cet esprit est très malin. Il faut vraiment voir le côté malicieux, malicieux de l'esprit qui dit non mais tu n'y arriveras pas de toute façon. et puis de percevoir ça. Hein. Donc ce qu'on nomme ici souvent Mara et on va... peut-être explorer Mara un autre soir. Et donc, il y a vraiment là tout un puits de trésors et de manières de se positionner à nouveau. C'est une attitude qui va nous aider. Avant qu'il n'atteigne l'éveil, donc quand il était aspirant Bouddha, le Bouddha, en méditant, a reconnu justement aussi, dans un sutra, c'est dit, qu'au contact de cette attention, à ses propres pensées, de la même manière qu'on est présent aux pensées ici, il s'est rendu compte d'une chose. Et je suis sûre qu'on peut se rendre compte de la même chose que lui. Il dit, il y a des pensées qui génèrent la souffrance en moi et il y a des pensées qui génèrent l'apaisement en moi. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors, les pensées contenant l'aversion, l'avidité provoquent des perturbations dans la conscience. Et les pensées contenant la bienveillance provoquent le contentement et la paix. Comment est-ce qu'on va pouvoir se rendre compte, quelque part, de ceci ? Eh bien, en étant justement dans une perspective de nourrir et d'établir et de vraiment, quelque part, se donner à générer, par exemple, les pensées de bienveillance. Et dans ce contexte-là, ce sont les pensées de bienveillance qui vont naturellement colorer l'esprit et nous aider à aller dans le sens de se souhaiter du bien, se souhaiter la paix, se souhaiter... C'est exactement comme ceci que cette tendance de l'esprit à toujours aller vers ce qui ne va pas, négatif, va diminuer, tout simplement. C'est la loi de cause à effet. Et donc, très tranquillement, on a cet aspect-là, c'est former l'esprit, c'est-à-dire le modeler. Et puis, quelque part, dans la relation à cet esprit, il y a nourrir le bien. Donc, quand il a vu qu'il y avait des pensées qui étaient tout simplement pas aidantes, voire même nuisibles, et des pensées qui étaient bénéfiques, eh bien, figurez-vous que dans le sutra, le même sutra, il dit, ben, il a décidé d'abandonner les pensées qui génèrent de la souffrance, Et il a décidé de nourrir celle qui génère le bien. C'est assez simple, hein? C'est fort, hein? Mais c'est pour ça qu'il est devenu Bouddha, hein? Voilà. Et donc, dans cette fameuse citation du Bouddha, dans ce sutra, il y a un point absolument essentiel qui dit ceci, vous l'avez déjà entendu, mais je crois que c'est vraiment un élément incroyablement important. C'est justement ceci, au niveau de l'intention et de l'attention, qui dit, tout ce à quoi vous pensez et réfléchissez fréquemment deviendra l'inclinaison de votre esprit. Ce à quoi on pense va naturellement influencer et c'est ce avec quoi on habite. C'est ce qu'on a dans notre propre esprit. C'est extraordinaire de percevoir ça. C'est tellement clair. C'est pas si évident à faire, on est bien d'accord. Mais en même temps, c'est possible. C'est fou qu'on essaie. Ouais, tout ce à quoi vous pensez, réfléchissez fréquemment, ben ça deviendra l'inclinaison de votre esprit. Voilà. Donc si on cultive constamment la colère, voilà, l'agacement, l'irritation, l'énervement, l'impatience, ben, hein, c'est quelque chose qu'on cultive. Donc ça implique qu'il n'y a pas de déterminisme dans le sens que, ah ouais, mais voilà, je suis soumise et puis les conditions sont ce qu'elles sont. Non. Il y a un choix conscient là et que ça va dans le sens. Si vous êtes là pour tant de jours, c'est que vous l'avez déjà certainement perçu, rencontré à un moment donné ou un autre qui fait que vous êtes là parce que vous voyez le bienfait du cheminement. Donc tout ceci implique là ce qu'a fait le Bouddha, c'est pas simplement nourrir le calme. Il a nourri ce qu'on nomme l'investigation, qui est le pendant du calme. Donc d'un côté, il y a le calme, la paix, l'apaisement pour avoir une certaine stabilité. Et puis de l'autre côté, il y a vraiment toute cette dimension d'examen, on va dire, d'examiner son esprit dans le sens d'investigation au moment présent, là où ça se passe, c'est pas d'une manière générale. Mais il y a toute une dimension là qui nous intéresse par rapport à qu'est-ce qui est là dans mon esprit? De quoi est-il fait? Momentanément, en ce moment. Et à chaque instant, il y a naturellement là cette possibilité d'y percevoir un petit peu plus clairement. Est-il habité par la colère? Est-il habité par l'avidité? Et la présence elle-même contient cet aspect. C'est la présence elle-même, si vous voulez, la qualité de pleine conscience, puisque c'est ce terme qu'on utilise souvent maintenant, en français. La pleine conscience a des ingrédients qui sont rattachés. C'est pas juste, voilà, pleinement conscient. Non, il y a des facteurs mentaux qui l'accompagnent. Et un des facteurs mentaux, c'est justement le calme. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension de stabilité, et en même temps, il y a aussi cette dimension de discernement. Discernement, lucidité, intelligence. Voilà, on peut utiliser vraiment beaucoup de mots, hein, pour expliquer cet aspect. Donc, est-ce qu'on va imaginer que cette investigation va se faire au niveau des pensées discursives, qu'on doit réfléchir? Eh bien non. Eh bien non, parce que si on se place au niveau des pensées discursives, il y a de fortes chances qu'on en produise encore plus. D'accord? Donc cette investigation, cette exploration, si vous voulez, elle provient de la présence elle-même. C'est-à-dire qu'elle va être nourrie de... De discernement, comme je viens de le dire, au contact des diverses expériences. Ça peut être tout à fait au contact du toucher, du goûter, du voir, de l'entendre, de tout ce qu'on peut découvrir de nous-mêmes. C'est-à-dire que quelque part, de toute façon, il n'y a que six types d'expériences, hein, il n'y en a pas plus. Comme le dit aussi le Bouddha, c'est le tout. Le tout, qu'est-ce qu'on peut vivre? Eh ben, le tout, c'est les cinq sens physiques et puis tout ce qui peut provenir de l'esprit, qui est le sixième sens ici. Hein. Donc, pleinement conscient des pensées, des émotions, des goûts, des saveurs, de tout ce qu'on peut explorer au niveau d'un contact direct. Et alors, dans la méditation, on peut se rendre compte que si on se dit examen et puis investigation, on va se dire, ah ben il faut que je pense. Hein? Et c'est peut-être là qu'on va commencer, effectivement. On va avoir peut-être même plus de pensées. Et très souvent, c'est assez extraordinaire de voir dans ce silence absolu-là que quelque part, l'esprit produit encore plus de pensées que dans notre vie courante. Hein? Mais pourquoi? Parce que tout est macro, c'est grossi. D'une part, parce qu'on est beaucoup plus calme, donc tout à coup, tout vient vraiment dans le calme, dans le silence. Et cet aspect-là des pensées nous apparaît mais vraiment comme un miroir grossissant. Et donc, les pensées aussi sont perçues comme étant très proches, puisqu'on est en intimité avec soi-même. On est vraiment très proche de soi. Donc, elles prennent beaucoup de place. Et elles ont tendance à nous agripper. Donc, c'est difficile de se rendre compte de ce qui est tellement proche de nous et de les percevoir d'un espace de présence, les pensées. Ça demande vraiment une certaine aptitude. Donc, voilà, on perçoit... un goût et puis automatiquement, très rapidement, il y a quelque chose qui fait qu'on a un commentaire par rapport à ce qu'on goûte. Voilà, pendant les repas, c'est waouh, ça fuse mes pensées, c'est oh, j'aimerais bien reproduire cette recette, je me demande ce qu'il y a là-dedans. Les bons aliments, enfin, j'imagine que certaines d'entre nous hein, ont cette petit commentaire et puis voilà, ouh là là, ça commence à fuser, j'ai complètement perdu... l'expérience de goûter de la saveur de cet aliment. Et donc, ça fuse tellement vite, comme quelqu'un l'a dit aujourd'hui. Hein. On goûte quelque chose et hop, ça y est. Ou bien on voit une image et puis il y a immédiatement une association d'un autre lieu, d'un autre repère. On entend un son, puis le mental oh, l'interprète comme désagréable quand on entend le tir du fusil, par exemple. Hein. Donc ça va très très vite et c'est normal que toutes ces impressions vont tellement vite. Et en même temps, ça laisse un impact. À chaque fois qu'il y a cette qualité de présence et qu'on en a conscience et qu'on se frotte à cet esprit, même si on se perd beaucoup, ben, il y a des repères et puis il y a quelque chose qui se passe au niveau du processus de transformation. C'est qu'on n'est plus complètement leurré. On n'est plus complètement leurré, même si, par moment, on peut vivre tout ceci comme étant une grande souffrance qui fait partie de notre domaine mental. Donc, on demeure au contact et il y a des fois, par bribes, des moments où on perçoit justement un espace entre les pensées. C'est-à-dire qu'il y a là, tout simplement, le calme qui s'est installé et qu'avec un peu plus de quiétude, eh bien, cette agitation qui est un conditionnement très fréquent bah, diminue et qu'à ce moment-là, il y a l'émergence de plus de capacité d'ouverture au calme, ce qu'on a justement exploré. Et que l'esprit calme, bah, c'est simplement un esprit calme. Et il n'y a pas à chercher plus que ça, mais ça fait du bien. Ce n'est pas juste rien. C'est extraordinaire de pouvoir ressentir que wow, l'esprit peut se calmer. Par petits moments, on a ce goût-là, cette saveur de dire mais, ah, tiens, ça a changé, là, ça a bougé. Je ne suis pas complètement prise par mes affaires, mes histoires ou un contenu agité. Donc l'investigation, elle est centrale dans la pratique de Vipassana. Donc, c'est quelque part un facteur d'éveil, c'est le deuxième facteur après l'attention. Et elle est considérée comme étant un partenaire de très grande importance par rapport à l'attention. Donc c'est attention et discernement, attention et clarté, ou attention et lucidité. Ce n'est pas juste une attention bébête, c'est une attention qui est « wow », qui nous réveille quelque part. Et donc, ce terme en pali, c'est « dhamma vichaya ». Et « dhamma vichaya », ça veut dire l'investigation des dharmas. Donc, les dharmas ici, c'est les phénomènes. Donc, qu'est-ce qu'on investigue ? Ben, ce sont les phénomènes. Qu'est-ce que sont les phénomènes ? Les phénomènes physiques, hein, le corps, tout ce qui est de l'ordre des sensations. Et puis ensuite, les phénomènes mentaux. Les perceptions, les sensations affectives, ou tonalités affectives, les pensées, les états mentaux et la conscience elle-même. Donc c'est ça qu'on investigue. Donc au niveau du processus, si vous voulez, c'est pas tellement l'histoire que je me raconte, mais ça devient le processus qui se déroule et combien je m'intéresse au processus lui-même et que je perçois un phénomène, une pensée ou une émotion pour ce qu'elle est. Et donc on peut se poser la question, comment on passe de cette investigation qui est souvent naturellement une dimension d'une pensée discursive, réfléchir à vivre cette expérience d'examen au niveau des dharmas. C'est en passant des contenus, c'est-à-dire qu'on s'intéresse moins au contenu, l'histoire que je me dis, l'histoire que je me raconte, ce que je me dis au niveau du vécu, de tout ce qui m'appartient, qui est personnel, hein, qui peut être extrêmement important et à comprendre. Mais ici, dans ce contexte de Dharma Vichaya, c'est plus vivre ceci, non pas tant au niveau des contenus que du processus méditatif lui-même. Comprenez ça ? Non ? C'est-à-dire qu'on a une histoire, et puis on a des réflexions, on a un vécu, on a quelque chose qui est personnel, et on vit tout ceci de l'espace des pensées, hein, des pensées, de ce qui est là, à passer à vivre ceci de l'espace de la présence à la pensée, la présence à... Tiens, il y a un contenu là. Ah, tiens, il y a une histoire. Et je ne suis pas pris dans l'histoire. Je perçois d'une façon assez claire, tiens, l'histoire que je me raconte. Ça, c'est un récit que je me dis. Et donc, ça change le niveau de perception. Donc, dans ce sens-là, cette investigation, elle est extrêmement intéressante. Et elle va se nourrir. Elle va se nourrir de quoi ? De la présence. Plus il y a d'attention, plus il y a de présence, plus il y a cette capacité à voir clairement, tiens, c'est ça qui se passe. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Ah oui, il y a une pensée. Puis je perçois que cette pensée-là, ben, elle va peut-être nourrir une pensée, une autre pensée. Puis ça devient, ben voilà, l'histoire que j'ai et que je me raconte. Et donc, son rôle ici, c'est rendre cet esprit intéressé à ce qui se passe. Hein, c'est son rôle. Il y a le calme, mais le calme, ça peut virer aussi quelque part à une détente tellement relâchée que bouf, et puis on s'endort, et puis voilà, il n'y a plus du tout quelque part l'intérêt, il n'y a plus le contact aussi. Hein, donc ça peut très vite virer, à un moment donné, à endormissement, et puis comme on peut l'appeler, ce qu'on appelle en termes dharma, ça s'appelle l'esprit plongeant. Et il plonge dans quoi ? Il plonge dans la rêverie, dans la somnolence, dans... Voilà. Donc le calme peut aller dans ce sens. Hein. Et ça, c'est évident que ce n'est pas là que ça va nous aider. Donc, il y a besoin de l'équilibrer. Et qu'est-ce qui va équilibrer cet esprit qui devient plongeant? Et puis, c'est comme si j'étais complètement assoupie. Voir ce moment, je me souviens d'un enseignement que j'avais reçu. Et le maître avait dit, éveille ton investigation et sois intéressé pour te rendre compte le moment où tu vas t'endormir. C'est super dur. Waouh, c'était incroyable. C'est voilà, le moment où tout à coup l'esprit va glisser dans l'endormissement. Ben, voilà, qu'est-ce qu'il a essayé de me tendre comme perche là? C'est réveiller l'investigation. C'était ça l'indication. Donc il y a besoin de calme, mais il y a aussi besoin quelque part d'intérêt. Et cet intérêt, souvent, on en parle comme un intérêt joyeux. Il y a de nouveau cette dimension de joie, dans le sens que si c'est joyeux, ben, c'est léger. Il y a une curiosité, si vous voulez, aussi, qui amène cette dimension de vivacité de l'esprit. Et il y a une vivacité et on a envie, quelque part, de percevoir ce qui se passe là, au moment où ça se passe. Et donc ça va amener à plus de discernement. Et ce discernement, ben, c'est la vision pénétrante. C'est vraiment y voir un petit peu plus clair à travers tous nos récits, nos histoires, tout ce qu'on se raconte. Il y a là, tout à coup, l'exploration qui se situe à un niveau intuitif. Et on en reparlera de ça, bien sûr. Donc, ce processus d'examen, il peut se passer au niveau aussi des réflexions. C'est un niveau. Tiens, je fais ça parce que ça, je vais là, je vais marcher là, et puis là, c'est là, là. Et puis ensuite, ça peut naturellement aller dans un sens beaucoup plus, quelque part, aiguisé, on va dire, lorsque l'esprit se calme, où on commence à pouvoir sentir qu'on est au contact et qu'il y a la joie, l'intérêt de simplement se poser la question, et c'est là que, pas tant qu'est-ce que je dois faire ou comment je suis, et puis le commentaire, ça c'est plus le commentaire ni l'interprétation, c'est tiens, et il n'y a pas besoin même de parler, moi je vous parle parce que je suis obligée de vous parler pour pouvoir me faire comprendre, mais ça implique la présence elle-même qui est vive et qui dit mais tiens, qu'est-ce qui est présent là? Vous voyez, ça réveille, qu'est-ce qui est présent? Qu'est-ce qui est là en réalité? Qu'est-ce qui se passe? Et cette question, elle reste à l'état question. Et ça, c'est très important. Il y a une ouverture qui fait que cette question va rester à l'état question. Le questionnement ne va pas demander une réponse. Souvent, on se pose des questions pour avoir une réponse. Vous êtes d'accord? Et là, ça reste juste, waouh, on réveille et ça reste à l'état question. Donc ça va se nourrir et cette dimension-là va nourrir un petit peu plus d'intérêt et puis du coup il va y avoir plus de présence et c'est très intéressant lorsqu'il y a beaucoup de pensées, que l'esprit est très distrait et que quand on commence à être complètement perdu puis qu'on se dit waouh là là, ouh là là, je sais plus où je suis, eh bien le calme, revenir à cette simplicité de rassembler l'énergie, trouver le point d'ancrage et en développant cette stabilité, eh bien, on va naturellement avoir à ce moment-là une dimension de plus grand calme, de stabilité et peut-être que cette distraction qui est quelque part de la rumination ou des pensées discursives, bah, ça se calme et très naturellement, il y a une dimension de cette vivacité qui va émerger. Ça se fait très naturellement, c'est intuitif en fait. Donc, ce que je décris là, c'est assez évident que ça se passe. C'est né du contact direct avec chaque expérience comme vous le vivez. Et c'est ce que vous décrivez quand vous venez en entretien. Donc, on n'a pas tant besoin à ce moment-là de se dire waouh, il faut vraiment que je me débarrasse de tout ce babillage ou de toute cette rumination. Parce que se débarrasser d'eux, implique qu'on a de l'aversion. Et se débarrasser d'eux, ben ça n'aide pas parce que ça va nous mettre dans un registre d'éloignement de ce qui se passe. Donc c'est au contraire, laisser ceci, s'il y a du babillage, si ça rumine, voilà, en arrière-plan et on s'intéresse à ces qualités-là. On s'intéresse à cultiver le calme. On s'intéresse, peu importe ce qu'il y a dans l'esprit, on s'intéresse et c'est là on forme l'esprit dans le sens de le nourrir de ce qui l'aide, le calme, la bienveillance, l'attention, l'intention de rester dans une certaine perspective de joie de pratiquer. Et puis, très naturellement, c'est comme ça que progressivement, on a un cheminement qui va dans le sens souhaité. Donc, avec un peu de pratique, voire beaucoup de pratique, on devient beaucoup plus habile en intégrant cette simplicité plutôt qu'en étant dans un contexte de relation où on est constamment en train de commenter, voire de juger et de se saborder, de se saper. C'est inimaginable combien on contribue dans le processus de méditation. Moi, je trouve que c'est fou de se rendre compte de cette attitude et de voir que ce que je mets en place, ça va naturellement laisser émerger une tendance, une manière de pratiquer et une manière d'être. Donc j'avais un exemple, là, il n'y a pas très longtemps, il y avait une retraite. Et puis, quelqu'un a médité et est venu me raconter en entretien combien elle avait découvert des choses au contact d'autres personnes qui avaient claqué la porte de la salle de méditation, qui n'avaient simplement pas vu que la porte avait claqué. Puis c'était une porte effectivement assez lourde, hein, comme on a ces portes qui sont... Parfois, elle était et puis elle a sursauté, mais elle a dit j'étais tellement présente que plutôt que d'avoir cette réaction habituelle, non, enfin, tu peux pas faire attention. ces modes, c'est tellement immédiat, hein, je veux dire, impression. Elle était là et elle a pris conscience quelque part de l'impression, de la résonance, de son niveau d'émotion et elle a vraiment eu cette capacité de rester complètement présente en elle et de percevoir combien ça avait affecté, que la tonalité affective était passée de très désagréable à vite une fusée de commentaires en disant waouh, ok, la porte a claqué, mais il n'y avait pas d'emprise par rapport à la personne, c'est juste la porte a claqué parce qu'il y avait eu le son, et en même temps, elle a investigué directement la qualité de l'esprit qui méditait. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans l'esprit, dans son propre esprit, et comment c'est l'esprit qui médite à ce moment-là ? Et ça, j'ai trouvé que c'était génial, sa formulation. Parce que moi, je ne l'avais pas entendu, ça. C'est la qualité de l'esprit qui médite. Comment est la qualité de mon esprit qui médite ? Donc là, pour avoir cette question-là et rester dans ce questionnement, il y a de l'investigation là. C'est waouh, qu'est-ce qu'il y a dans cet esprit ? Et de pouvoir vivre l'exploration en ayant tout à fait conscience du ressenti corporel, peut-être certainement du désagrément au niveau de la tonalité affective. Mais qu'est-ce que ça implique ? C'est que ça implique que la porte qui claque, eh bien, c'est une opportunité merveilleuse d'éveil. Donc, comme quoi, tout peut être une opportunité pour se réveiller. Une expérience extrêmement désagréable, on peut avoir là un vécu qui fait « tiens, comment est-ce ?» et demeurer en soi-même et avoir un éclairage, un nouvel éclairage. Donc j'espère que ça vous donne un petit peu le sentiment et l'impression de pouvoir prendre aussi des fois des expériences qui sont pas forcément géniales. Donc comment il fonctionne ce facteur mental ? Eh bien, il agit de diverses manières. Une manière, et c'est ce que je viens de décrire, c'est que si on est proche de l'expérience et qu'on est présent, eh bien, c'est lui qui va permettre de passer de la réaction à la réponse, c'est-à-dire à simplement prendre en compte et sortir du mode réactif habituel, qui est tellement, tellement, tellement fréquent. C'est vraiment cet ingrédient majeur qui dit « ah ouais, il y a une prise en compte » et puis dire « waouh, il y a quand même de l'intérêt, de la vivacité, qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Et du coup, il y a une certaine clarté et une envie de prendre en compte cette expérience. La deuxième manière de pouvoir se servir de l'investigation, c'est la façon qu'on peut le détendre. C'est-à-dire que s'il est crispé, s'il est figé, et souvent c'est ça, si ça coince quelque part, eh bien cette investigation, ça va agir exactement de la même manière que Metta, dans le sens que c'est un lubrifiant, parce qu'il y a cette dimension justement de vivacité qui fait qu'il se réveille et il est tellement en souffrance quand il est contracté que quand l'investigation est là, bah, ça agit, c'est vraiment pour ça qu'on l'appelle facteur d'éveil aussi, qu'il allège, il apporte de la légèreté, la vivacité dans le sens de la légèreté. Donc c'est aussi un lubrifiant, plutôt que de rester obsédé et enfermé. Donc, dans une certaine mesure, le questionnement qui est « qu'est-ce qui se passe ici ?» Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui est présent là, en ce moment? C'est une façon de réveiller l'investigation. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'intérêt là. Et comment j'y réponds? Comment est-ce que je suis? Quelle est la qualité de l'esprit qui médite? Vous voyez que ce sont des questions. Et des fois, c'est très, très intéressant de se questionner. Alors, on peut naturellement formuler une question pour soi-même. Mais on peut aussi, comme je l'ai dit, vivre ceci d'un espace de tranquillité, de silence. Et c'est la qualité renforcée de la pleine conscience qui fait ce boulot, en fait. Que c'est chaque fois des facteurs mentaux qui agissent ensemble, qui vont s'entraider et qui sont des compagnons de route. Et c'est génial, à ce moment-là, quand on commence à les voir et les sentir et qui font un petit peu plus partie de notre équipement, un bon équipement. Donc il y a à prendre en compte l'expérience présente et à prendre en compte ce qu'on appelle dans ce contexte la relation à l'expérience présente, donc ce qu'on nomme l'attitude. Vous avez entendu, nous avons entendu parler de l'attitude, hein? Cette attitude qui est de vivre plus pleinement au contact du rapport à l'expérience. Donc si on prend les pensées par exemple, eh bien, très souvent c'est un piège, hein? Parce qu'on ne les reconnaît pas pour ce qu'elles sont, quoi, tout simplement. Ce sont des pensées. Dans ce contexte-ci, on a envie de les percevoir comme des pensées. Voilà, pas tellement ce qu'elles disent, mais juste, une pensée. Tiens, voilà encore une pensée. Encore une pensée. Et ça, c'est très différent comme positionnement. Vous comprenez ici, hein? Voilà. Et de cet espace de présence, on peut commencer à percevoir. Waouh, elles émergent, elles passent. C'est des phénomènes mentaux. Voilà. Très vite, elles nous attrapent, hein? Mais en même temps, c'est extraordinaire de voir que on peut aussi se rendre compte, au travers de l'investigation, cette pensée-là, qu'est-ce qu'elle dit? Donc là, on rejoint à nouveau le contenu. Qu'est-ce qu'elle dit? Quelle est la représentation? Quelle est l'interprétation? Qu'est-ce qui se décrit? C'est aussi l'investigation qui va nous aider à y voir plus clair, à discerner, tiens, quel est le type de pensée? À partir de la présence, pas perdu dedans, piégé. Donc tout ça, c'est un cheminement. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, c'est pas grave. Vous les demandez en entretien. D'ailleurs, à partir de demain, nous avons des entretiens individuels. C'est super. J'ai affiché la feuille, là. Voilà. Parce que de toute manière, il y aura une succession de compréhensions, une succession de confusions. Et que tout ceci est tout à fait normal et que c'est complètement important d'être aussi confus. Parce que si on est confus, eh bien, on essaye aussi d'investiguer, tiens, c'est quoi ma confusion en fait? Je suis confuse à propos de quoi? Et que naturellement, ça nous réveille et ça réveille aussi l'intérêt joyeux. Donc, le questionnement, il est important là. C'est vrai que mais c'est un questionnement qui est empli de calme, de tranquillité, qu'on va pouvoir découvrir progressivement. On ne peut pas tout comprendre. C'est tellement intuitif ce chemin. Donc, les questions restent ouvertes. N'essayez pas de chercher les réponses ou de les trouver. Ce n'est pas de cet espace de intellectuel, on va dire, qu'on va pouvoir un tout petit peu se situer. Donc Mark Twain, il disait « Le danger, ce n'est pas ce qu'on ignore, c'est ce qu'on tient pour certains qui ne l'est pas. » Et ça, c'est vraiment pas mal, parce qu'il y a plein de choses qu'on tient pour certaines. Hein. C'est comme ça. C'est vérité absolue. Et donc, ça, c'est un danger. Hein, et on le voit apparaître aujourd'hui. Mon Dieu, c'est incroyable. Ouais. Donc, il y a plein de choses à découvrir. Et le Bouddha ne nous demande pas de le croire aveuglément, mais d'examiner. Donc ça, c'est une citation de Bhikkhu Bodhi. Il ajoute « Tout est question d'expérience dans l'enseignement du Bouddha. On ne peut pas arriver à cette vision par le biais de la pensée conceptuelle. Il ne s'agit pas d'un processus intellectuel. La compréhension est intuitive. Elle va émerger d'un espace de présence intuitive, d'un espace de grande simplicité basé tout simplement dans le contact direct avec chaque expérience au contact des sens. » Et il ajoute à la fin, « Nous simplifions donc notre relation à la vie, à nous-mêmes en méditation. Nous y voyons plus clair. Nous cessons de nous perdre dans le mental. Ceci requiert de la pratique,